Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle étude de la Bible dans cette leçon de l'école du sabbat.
Bonjour Bernard.
Bonjour Dominique.
Bonjour chers amis auditeurs et bienvenue avec nous pour cette leçon numéro 11 de l'école du sabbat pour la période, pour la semaine du 5 au 11 septembre 2009. Et là, je laisse le plaisir à Bernard de vous faire découvrir le titre.
Et oui, bien sûr, les thèmes essentiels de la première épître de Jean. Le verset à mémoriser, c'est le suivant.
C'est celui de 1 Jean, chapitre 3, verset 2.
Oui. Bien-aimés, maintenant nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons ne s'est pas encore manifesté. Mais nous savons que, quel que soit le moment de sa manifestation, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et les questions clés pour cette leçon.
Qu'enseigne Jean sur l'œuvre de la divinité? Quelles images choisit-il pour nous donner une idée de ce que devrait être l'Église? Quel est l'unique fondement du salut? Quel enseignement Jean apporte-t-il concernant la vérité?
De toute la tragédie du 11 septembre 2001, les attaques terroristes à New York et à Washington, il n'y a eu qu'une seule conséquence positive. Pour beaucoup, le glas du relativisme moral a sonné. La mort de milliers de personnes en plein jour, sous nos yeux et en direct sur nos écrans de télévision, a rendu compte, en temps réel, de l'horreur que représentait un tel crime de masse.
Il était soudain parfaitement clair qu'aucun motif culturel ne pouvait justifier pareille atrocité. Le 11 septembre, les gens ont vu se manifester un mal moral qui transcende toutes les cultures, toutes les traditions et toutes les époques. Nombreux sont ceux qui ont soudain pris conscience de la nature objective de la morale et en particulier du mal.
Pour Jean, il n'a jamais été question de relativisme moral. On savait qu'il existe une vérité absolue et qu'elle est centrée sur le Christ. Et cette semaine, nous passerons en revue certains des thèmes majeurs de 1 Jean, y compris la façon dont il appréhende la vérité, fondement constant de la moralité.
Et nous voici à la journée de dimanche, 6 septembre 2009, dont le titre est
« La divinité ». Le texte de 1 Jean nous donne un aperçu de ce qu'est la divinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais il insiste surtout sur Jésus et le Père. Cette lettre déclare que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas de ténèbres, c'est-à-dire de mal, en lui. Elle dit aussi qu'il est juste et qu'il est amour, et qu'en conséquence, notre aptitude à aimer dépend de ce Dieu d'amour.
Sa relation avec les croyants s'exprime par le mot « enfant », qui, à lui seul, résume l'amour et la sollicitude que le Père nous porte. En bref, cet épître nous présente une image de Dieu très positive et chargée d'espérance. Mais ce chapitre nous parle d'autre chose encore. Il nous parle de ce que le Seigneur est en train d'accomplir pour nous. Ce qui devrait être la vraie source de notre réconfort et de notre espérance.
Eh bien, nous allons lire maintenant, nous allons voir, d'après quelques textes, ce que Dieu fait actuellement pour nous. Et un premier texte se trouve dans 1 Jean, chapitre 1 et le verset 9.
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Et nous continuons avec 1 Jean 2, versets 1 et 2.
Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Nous continuons ces quelques lectures avec 1 Jean 3, verset 8.
Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Prenons à présent 1 Jean, chapitre 4, versets 9 et 10.
Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Un dernier texte aujourd'hui, c'est 1 Jean 5, verset 11.
Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils.
La lettre de Jean fait référence à la venue en chair du Christ ainsi qu'à sa mort pour nous. Par elle, il nous a donné la possibilité d'avoir la vie éternelle et il a vaincu les œuvres du diable, notre ennemi. Selon 1 Jean, en effet, Dieu pardonne nos péchés, il nous purifie, il intercède pour nous et nous offre la vie éternelle. Il nous en donne l'assurance et fait de nous ses enfants. En définitive, seule la croix et le sang de Jésus ont le pouvoir de nous sauver.
Il y a peut-être certains aspects de notre vie que nous n'avons pas entièrement abandonnés au Seigneur. Autrement dit, des choses dont nous savons tout au fond de nous qu'elles ne sont pas bonnes, mais dont nous ne nous sommes pas détournés. Puisse l'Esprit nous convaincre de nous en détourner dès aujourd'hui.
Arrivons au lundi 7 septembre et ce jour-là, nous avons comme thème à étudier...
L'Église.
Dans le Nouveau Testament, l'Église est représentée par des images telles que le sel, une colonne, une construction ou une maison, un temple, une mère, une mariée et le corps du Christ.
Même si dans l'Épître de Jean, le mot « Église » lui-même n'apparaît pas, il en est quand même question. Nous allons prendre quelques textes qui vont nous aider à mieux comprendre ce que devrait être l'Église. Et nous allons commencer avec 1 Jean, chapitre 2, les versets 10 et 11.
Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber. Mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait où il va, parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Encore un texte, 1 Jean chapitre 2, versets 13 et 14.
Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Continuons avec le verset 18.
Jeunes enfants, c'est l'heure dernière. Comme vous avez entendu qu'un antichrist venait, voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists, et par là nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Et enfin, 1 Jean chapitre 3, verset 1.
Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu.
Dans ce chapitre, l'Église est surtout décrite, semble-t-il, comme une famille composée du Père Céleste, qui est cité 12 fois. Jean est en lui-même une sorte de figure paternelle, qui appelle les membres d'Église « mes enfants ». Et les membres d'Église, qui peuvent être des enfants, ceci est cité 13 fois, des pères et des jeunes gens. Des frères, aussi cité 13 fois.
Ces termes impliquent une certaine forme d'intimité, une relation étroite et de l'amour entre les uns et les autres, ainsi qu'une notion d'appartenance. Chacun est nécessaire, chacun a sa place au sein de la famille. Et comme la divinité fait partie de la famille, celle-ci possède aussi une dimension à la fois horizontale et verticale. En tant que membres d'Église, nous faisons réellement partie de la famille de Dieu.
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Ce texte ne traduit-il pas ce que signifie essentiellement appartenir à l'Église de Dieu? Eh bien, nous achevons ainsi cette journée. Pour poursuivre
avec le mardi 8 septembre 2009 dont le thème est
le salut.
De la Genèse à l'Apocalypse, la Bible ne parle que de Jésus. Mais pas de Jésus tout seul. Elle parle de Jésus et de la rédemption, de ce que Dieu a fait en lui pour la race déchue, de l'incroyable sacrifice consenti par Dieu lui-même afin de nous permettre de retrouver ce qui nous avait été donné à l'origine et bien plus encore. En bref, le salut est l'un des thèmes clés de la Bible, tout comme dans la première épître de Jean.
Comment est-on sauvé ? Eh bien, nous allons le lire avec quelques textes. Et un premier nous est proposé, c'est 1 Jean 1, verset 9.
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Prenons à présent 1 Jean 2, 2.
Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et enfin, 1 Jean chapitre 4, versets 9 et 10.
Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés.
C'est par le sang de Jésus que nous sommes sauvés, à savoir par son sacrifice expiatoire. Jean ne mentionne pas la croix de façon directe, mais à travers le sang et le sacrifice expiatoire. Ce n'est pas l'exemple de Jésus qui sauve, aussi important soit-il, mais c'est sa mort. Néanmoins, son exemple nous invite à marcher comme lui. Pour l'apôtre Jean, le salut des croyants est une réalité toujours actuelle, une réalité qu'il décrit de plusieurs manières. Nous allons voir lesquelles.
Les croyants ont appris à connaître Jésus. Il nous est dit également qu'ils sont en lui, que leurs péchés ont été pardonnés, qu'ils ont vaincu le malin, qu'ils sont passés de la mort à la vie, et enfin qu'ils ont la vie éternelle. Quel tableau magnifique que représente ce salut.
Connaissant les grandes promesses et l'espérance qui sont les nôtres en Jésus, pourquoi ne pas transmettre cette bonne nouvelle à davantage de gens ? À quel sacrifice sommes-nous prêts pour donner à d'autres l'occasion de connaître Jésus et son salut ? Des questions importantes. Nous poursuivons cette étude avec la journée du mercredi 9 septembre 2009 et là nous allons voir
un comportement chrétien.
Même si Jean, dans sa première lettre, traite des erreurs doctrinales, il lui arrive à maintes reprises d'aborder aussi le problème de la morale. Il sait en effet pertinemment que la théologie a une influence sur l'éthique et que lorsqu'elle est mauvaise, elle conduit à de mauvaises actions.
Il est donc essentiel d'avoir de notre théologie la connaissance la plus juste possible. Une mauvaise compréhension de la loi et de la grâce, par exemple, a fait que des millions de gens ont piétiné le sabbat de Dieu. Voilà pourquoi nous devons être sûrs que la compréhension théologique que nous avons de Dieu et des Écritures est correcte et qu'elle est empreinte de maturité et de profondeur.
Nous devons également nous assurer que nous mettons correctement en pratique notre théologie. Il est affligeant d'apprendre qu'un grand défenseur de notre théologie s'est enfui avec la femme de son voisin, ou que des étudiants en théologie ont triché le jour de leurs examens. Il est également pénible de constater que des observateurs du sabbat, qui connaissent pourtant la vérité sur le salut, le sanctuaire céleste et la condition des morts, se mentent les uns les autres.
Relisons à présent quelques textes concernant le comportement éthique. Et nous allons commencer avec 1 Jean, chapitre 1, verset 7.
Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Un autre texte, 1 Jean, chapitre 2, verset 15 et 16.
N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais elle vient du monde.
Nous continuons donc avec 1 Jean chapitre 3 et quelques versets tirés de ce chapitre, versets 7, versets 15 et versets 17. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui, le Seigneur est juste. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Si quelqu'un possède les biens du monde, qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Et un dernier texte pour cette journée, c'est 1 Jean 5, les versets 2 et 3.
À ceci, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, quand nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles.
Jean précise par des recommandations directes ou indirectes ce qu'est un comportement conforme à la morale. Il exhorte les chrétiens à ne pas mentir, à ne pas pécher, à ne pas haïr son frère ou sa sœur, à ne pas aimer le monde avec ses convoitises et son orgueil, et à ne pas se laisser aller au non-respect des lois de Dieu.
Il les encourage à être, au contraire, obéissants, à faire le bien et à s'aimer les uns les autres de façon concrète. Si Paul entre davantage dans les détails, Jean, lui, résume en quoi consiste un bon comportement éthique. C'est garder les commandements de Dieu et marcher comme Jésus a marché et vécu.
Il montre également que lorsqu'on est né de Dieu, qu'on le connaît et qu'on l'aime, on voit sa vie transformée. Pour Jean, la vérité n'est pas seulement quelque chose que l'on croit, c'est quelque chose que l'on vit. Aucun verset, sans doute, ne le dit aussi clairement que dans 1 Jean chapitre 3 et le verset 7, qui dit ceci. « Mes enfants, que personne ne vous égare, celui qui fait la justice est juste, comme lui est juste. »
Et c'est ainsi que nous sommes invités à méditer avec les questions suivantes. Comment marcher et vivre comme Jésus? Qu'est-ce que cela signifie concrètement et au quotidien? Vous trouvez-vous actuellement confronté à une situation dans laquelle vous allez avoir besoin de beaucoup de grâce et de puissance pour agir comme le Christ?
Eh bien oui, nous sommes soumis à tout cela, chacun d'entre nous, bien entendu. Et ainsi nous continuons cette semaine plutôt avec le jeudi 10 septembre 2009. Et là nous allons voir...
Vérité et mensonge.
Depuis l'époque de la Grèce antique jusqu'à nos jours, l'idée selon laquelle la vérité est relative et qu'il n'y a pas d'absolu, cette vérité a toujours existé. D'après elle, les êtres humains, loin d'avoir un modèle absolu et transcendant pour les guider et orienter leurs actes, doivent le plus souvent décider par eux-mêmes de ce qu'est la vérité et l'erreur, le bien et le mal, ce qui est moral ou immoral.
C'est ce qu'on appelle le relativisme. Et si ce concept se présente sous des formes variées, son principe reste toujours le même. Il n'existe pas de modèle absolu en matière de vérité, de bien ou de morale. C'est à nous d'en décider et d'agir au mieux en fonction de notre culture, de notre groupe social ou encore de nos traditions.
Eh bien, lisons maintenant ce qu'est pour Jésus et quelle est la nature de cette vérité absolue. Et nous trouvons ce texte dans Jean 14, son évangile, les versets 5 et 6.
Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ?» Et Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. »
Jésus, semble-t-il, n'accepte pas l'idée que la vérité est relative. En termes parfaitement clairs et sans la moindre ambiguïté, il nous montre qu'il existe une vérité absolue et que c'est en lui, dans sa personne, que nous la voyons se manifester.
Prenons à présent quelques textes pour voir ce qu'enseigne Jean au sujet de la vérité. Et commençons avec 1 Jean 2, les versets 3 et 4.
À ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements, eh bien c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Nous lisons encore un ou deux textes et nous trouvons le suivant dans 1 Jean 3, les versets 18 et 19.
Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous apaiserons notre cœur devant lui. Et prenons encore 1 Jean 4, le verset 6.
Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur.
Jean sait qu'il existe des absolus. Bien plus, il déclare ouvertement que même si les conceptions relativistes du monde tendent à l'effacer, il y a une nette distinction entre la vérité et le mensonge. Il existe une vérité absolue. Dieu est vrai. Jésus et le Saint-Esprit sont la vérité.
En revanche, celui qui dit des choses non fondées, qui prétend aimer sans observer les commandements et qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est un menteur. Le chrétien sincère, lui, connaît la vérité. Il l'aime et il s'y soumet. Ainsi, la vérité s'appréhende intellectuellement et se pratique concrètement.
Il n'y a donc aucun doute à ce sujet. Pour la Bible, il existe une vérité absolue. Mais toutes les vérités sont-elles absolues ? N'existe-t-il pas des vérités qui sont moins établies, mais plus liées aux contingences personnelles, culturelles et donc plus variantes ? Comment apprendre à faire la différence entre ce qui doit être absolu et immuable et ce qui peut changer, être relatif et dépendre des circonstances ?
Eh bien, des questions qui nous sont posées chaque jour. Nous arrivons à la journée du vendredi 11 septembre 2009. Et pour aller plus loin, nous avons encore quelques citations à vous proposer. Tout d'abord, quelques lignes. Nous avons vraiment besoin de la première lettre de Jean, parce qu'aujourd'hui, toutes sortes d'idées fausses ont vu le jour. Jean exhorte son auditoire, comme chacun de nous, à ne pas croire tout le monde, à ne pas accepter de nouvelles doctrines sans exercer son esprit critique, et à vérifier si oui ou non, un enseignement est vraiment biblique. Il est nécessaire de savoir distinguer la vérité de l'erreur.
Voici quels sont, selon Jean, les trois critères du véritable christianisme. Le premier, croire que Jésus est le Fils de Dieu venu en chair. Le second, observer les commandements de Dieu. Et le dernier, aimer Dieu et les hommes. Jean désire poser des fondements solides et aider ses lecteurs à avoir l'assurance du salut par la foi en Jésus-Christ, tel qu'il l'est annoncé dans les Écritures.
Et pour terminer cette semaine, nous avons quelques méditations à vous proposer. Lorsqu'on croit à l'existence d'un absolu, il est difficile d'admettre le relativisme moral qui comporte cependant une certaine logique. S'il n'y a ni Dieu ni Créateur, si nous sommes simplement le résultat du hasard, d'où pourrait bien venir notre sens moral, si ce n'est de nous-mêmes ? Et pourquoi ne pourrions-nous pas alors changer d'avis en ce qui concerne nos valeurs morales ? D'un point de vue purement pratique, pourquoi ce raisonnement est-il faux ?
Dans les années 60, quand on demanda au gouvernement britannique comment il comptait aider les citoyens à acquérir davantage de sens moral, le premier ministre de l'époque, Harold Macmillan, a répondu « Je ne suis que le Premier ministre. Allez donc en parler à l'archevêque. En quoi ce que nous avons étudié cette semaine peut-il nous aider à acquérir plus de sens moral ? Où est-ce précisément l'objectif de l'Évangile de nous aider en ce sens ?
Fiorello Enrico La Guardia était juge en Amérique pendant les dures années de la Grande Dépression. Un jour, on a fait comparaître devant lui un père de famille qui avait volé du pain. Quand La Guardia lui demanda pourquoi il avait fait cela, l'homme avoua en sanglotant que c'était pour nourrir ses enfants, qui avaient faim. La Guardia lui dit « Vous avez commis un délit. Vous en êtes conscient, je pense. »
L'homme, repentant, et osant à peine lever les yeux, fit un signe de tête et répondit « Oui, monsieur ». Le juge déclara alors avec sévérité que la loi ne faisait pas d'exception, ce à quoi l'homme acquiesça de nouveau. La guardia fouilla ensuite dans sa poche et en retira 10 dollars. « Voici le montant de votre amende, dit-il, c'est moi qui paie. Et même si vous êtes coupable, vous n'aurez pas à encourir de peine. » Cette histoire ne nous aide-t-elle pas à mieux comprendre non seulement l'Évangile, mais aussi ce que signifie « vivre comme Jésus » ?
Eh bien, c'était une belle image qui nous fait réfléchir, bien entendu. Et ainsi s'achève cette semaine.
Avec cette 11e leçon.
Bien sûr. Et nous donnerons donc rendez-vous à nos amis pour la
leçon numéro 12.
La semaine prochaine. À bientôt.
C'était votre leçon de l'école du sabbat. Merci et à bientôt. Que Dieu vous bénisse et Jésus revient.